Bain.
Dans ce journal, vous entendrez Anthony Géros. Il était notre invité ce matin et il est revenu sur les tensions au sein du Tavigny. On parlera aussi de ce grand projet d'hôtel à Moréa et de démantèlement et dépollution de gros bateaux avec Enviropol qui va s'attaquer au Tahiti Nui 9. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
La politique de nouveau à la une ce mardi.
Et oui, notamment les tensions au sein du Tavigny après la réunion explosive de samedi au siège du parti indépendantiste. Moeta Ibroverson et Oscar Temaru avaient déjà apporté leurs précisions dimanche soir dans les journaux télévisés. Et ce matin, c'est le président de l'Assemblée, Tony Géros, qui était sur notre plateau pour lui aussi donner sa version de l'histoire. Il regrette que la réunion de samedi, qui aurait dû être consacrée à l'analyse des résultats municipaux, ait dérivé vers des convictions personnelles et des annonces de lignes dissidentes. Les affirmations publiques de Moeta Ibroverson. Comme Oscar Temaru dimanche, Tony Géros indique que le Tavigny n'a pas l'intention de demander au président de démissionner et que la majorité compte bien soutenir le gouvernement jusqu'à la fin de la mandature. Mais il précise aussi que Moeta Ibroverson aurait dû affirmer ses doutes sur la ligne du parti avant d'être élu président en 2023 et qu'à sa place, il démissionnerait du Tavigny pour acter cette différence. Écoutez.
Quand on n'est plus en phase avec les objectifs du parti et les lignes de conduite, la ligne de conduite du parti, on démissionne. On ne vient pas critiquer le parti et dire que non, c'est moi qui a le raisonnement qui tient la route et il faut que le parti dévie de ses objectifs pour rejoindre les miens.
Bah, ça veut dire que Moeta Ibroverson devrait démissionner pour vous. Hein.
Bah, écoute, c'est pour ça que je parle d'honnêteté intellectuelle. Quand je serai plus en phase avec mon parti, je vais démissionner du parti. Je ne vais pas aller crier sur tous les toits que je ne suis plus en phase, mais j'y reste. Quoi.
Et Tony Géros qui parle de résultats non pas catastrophiques, mais bien d'une régression au municipal. Et il attribue bien la défaite, y compris la sienne, à Paea, non pas à des erreurs stratégiques ou à la confusion des thématiques de campagne, mais à la politique du gouvernement qui ne répond pas à l'attente des électeurs. J'espère que la demande de réalignement sera bien prise en compte, insiste-t-il. Quant au nouveau groupe qui serait en train de se former à Talahoy, le président de l'Assemblée attend de voir. Il dénonce en tout cas les annonces faites par Moeta Ibroverson qui voit 14 à 29 des 36 élus Bleu Ciel acter cette scission. Pour Tony Géros, il est anormal que le président du pays discute avec ses élus, les encourage peut-être à créer leur groupe.
Que des choses comme ça aient été dites par un président de groupe ou un président de l'Assemblée, je peux comprendre. Mais par un président du pays, je crois qu'il y a des relations tout à fait occultes et particulières entre les personnes qui fomentent ce groupe et le gouvernement ou le président du pays, j'en sais tout rien, pour qu'il ait la capacité de pouvoir dire « mais il y aura deux groupes ».
Et voilà, et même si un groupe était effectivement constitué avant la reprise des débats à Talahoy le 9 avril, il ne serait pas forcé de démissionner du Tavigny, explique son vice-président, et leur démarche ne remettrait pas en cause la stabilité du gouvernement ou le fonctionnement des institutions, estime-t-il, puisque les deux groupes continueraient à voter les textes du gouvernement. Bref, ça ne servirait à rien.
Je l'ai dit, il n'y a aucun intérêt, parce que de toute façon, qu'ils soient un, deux, trois groupes, ils vont toujours voter les lois de pays que le pays va présenter. En fait, c'est des problèmes relationnels, je n'entends pas avec machin, donc je ne vais pas rester dans ce groupe parce que je ne veux pas le voir ou je ne veux pas rester dans cette mec parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà, bon, ça c'est des problèmes relationnels, mais au moment du vote, vous verrez, ils vont tous voter d'une seule main. Au niveau de la stabilité du gouvernement, ce n'est vraiment pas un sujet.
Voilà l'interview de Tony Géros qui était au micro de Charlie René à retrouver sur notre site et notre page Facebook. À noter que les élus Tavigny sont en ce moment même en réunion au siège du parti à Faa.
Et de la justice aussi dans ce journal avec ce délinquant sexuel à la barre.
Ce matin, le tribunal correctionnel de Papeete a remonté le temps pour juger un individu sur des faits commis en 2017. Le prévenu, un homme de 48 ans, est mis en cause pour des faits d'agression sexuelle sur une mineure âgée de 7 ans au moment des faits. L'homme qui est le cousin germain de la mère de la victime venait régulièrement à son domicile pour garder les deux fillettes lorsque la mère était au travail. Si pendant sa garde à vue, il n'a pas reconnu les faits, à la barre ce matin, il a fini par avouer. On apprend également durant l'audience qu'il aurait eu des relations sexuelles avec la plus grande, des faits pour lesquels il n'est pas aujourd'hui poursuivi. La procureure a demandé 4 ans de prison, dont 3 avec sursis avec inscription au fichier des délinquants sexuels. Le délibéré sera rendu dans la journée.
Retour du grand projet de complexe hôtelier 4 ou 5 étoiles, c'est aux abords du golfe de Moréa.
Oui, on en parle depuis plusieurs années de ce projet et hier, ce sont les élus de l'Assemblée qui ont validé en commission la demande d'agrément au régime des grands investissements de l'Océanienne de développement touristique. C'est cette filiale de la Socredo qui exploite le golfe de Témé depuis plus de 10 ans et qui porte le projet de Golf Témé Resort and Spa, un établissement de 120 chambres, 19 bungalows et 14 villas qui veut devenir le premier hôtel du pays adossé à un golf international. Les explications du directeur général de la Socredo, Régis Chang.
Depuis le départ, la Socredo elle a récupéré ce foncier, on a régularisé des choses, on a obtenu un permis de construire. Voilà, maintenant on a déposé un dossier aux grands investissements pour que les investisseurs qui vont se lancer dans la mise en œuvre du projet, mais que les éléments financiers soient obtenus. Il y a le montage financier, donc on discute avec des investisseurs polynésiens qui sont intéressés pour acheter le domaine.
Il s'agit donc désormais de confier les clés du projet à un privé et comme vous venez de l'entendre, un groupe d'investisseurs polynésiens s'est déjà positionné. Dans la note de synthèse présentée en commission à l'Assemblée hier, la filiale de la Socredo a expliqué que son projet d'hôtel adossé à un golf est une innovation au Fénois, ça n'existe pas encore ici. Cet hôtel serait construit en bord de mer, 500 mètres de plage, une zone de près de 12 hectares à Teavaro, 120 chambres, on vous l'a dit, bungalows, villas et 3 restaurants, 3 bars, une salle de banquet, un spa, une salle de fitness, un club enfant, une piscine, une boutique et un salon de coiffure, 4 ou 5 étoiles.
C'est pour donner une idée aux investisseurs en termes de taille, de projet, de nombre de nuitées, mais le positionnement idéal, comme on n'a pas de bungalow sur pilotis sur l'eau, quand on regarde l'offre existante, c'est plutôt un 4 étoiles que les experts suggèrent. Hein. Après, l'investisseur, s'il veut faire autre chose, il fait autre chose. Ça pose le principe du projet. Ensuite, les investisseurs ils finaliseront le dossier. Hein.
Voilà, Régis Chang qui était au micro de Lucie Secarelli, un nouvel hôtel donc qui ciblera une clientèle fortunée en quête de luxe et amateur de golf. Pour appuyer sa demande d'agrément aux mesures d'incitation fiscale à l'investissement, la filiale de la Socredo a déclaré s'inscrire pleinement dans la nouvelle stratégie touristique 2023-2027 du pays, avec cette offre ciblant du tourisme haut de gamme. Et si les démarches se poursuivent, les travaux pourraient démarrer idéalement en 2027 ou 2028.
Et dans l'actualité aussi ce midi, d'autres gros travaux devraient commencer bientôt, mais cette fois à la cale de Halage du Port.
Enviropol doit s'attaquer au Tahiti Nui 9. Ce navire de la flottille administrative ne navigue plus depuis des années. 56 mètres de long, 10 mètres de large, plus de 400 tonnes à dépolluer et à démanteler. C'est le plus gros chantier maritime d'Enviropol jusqu'à aujourd'hui. Après les voiliers et les tonniers, la société dit avoir structuré une filière. On écoute le chargé du projet sur les démantèlements de bateaux, Thomas Miro.
On a fait nos premiers navires en 2022 avec l'Oiseau des Îles. C'est un tonnier de pêche qui était abandonné. Il gitait, il était en état de dégradation assez avancé. Et le projet que propose Enviropol, c'est de réaliser la dépollution totale des bateaux. On parle de l'amiante, du plomb et des hydrocarbures et des fluides polluants qu'on trouvera dans ces bateaux. Mais aussi de pouvoir favoriser le recyclage des matières qui constituent le tonnier, notamment les aciers, les métaux. On retrouve beaucoup d'aluminium, de cuivre dans les bateaux. Et ça, on arrive à le recycler et à l'exporter vers des pays comme la Nouvelle-Zélande qui, eux, récupèrent ces matières premières et les refondent pour en refaire des matériaux utilisables.
Enviropol s'était déjà occupé du Tahiti Nui 6 où 2 mois de travail avaient été nécessaires. 70% des matériaux avaient été récupérés et sur le 9, la société espère faire aussi bien, voire mieux, avec un grand nettoyage de la coque du navire qui va d'abord être carchérisé.
Lorsqu'on exporte en Nouvelle-Zélande, ils sont hyper exigeants, les Néo-Zélandais, sur le phytosanitaire. Et nous, on se doit d'assurer, une préparation de respecter un cahier des charges, notamment sur tout ce qui est micro-organismes, algues, coquillages. Et donc, pour ce faire, on va du coup mettre en place sur le TN9 un nettoyage complet de la coque pour pouvoir exporter le maximum de matière possible, notamment tout ce qui est aussi immergé sur cette partie du bateau.
La découpe aura lieu à la cale de halage de Faré-Outé, seule solution à ce jour en attendant d'avoir un espace dédié au démantèlement métallique. Et d'ailleurs, c'est bien le projet d'Enviropol avec son Écopol, un complexe de traitement de déchets du côté du CET de Peyoro dont on vous a déjà parlé. La société attend toujours le bail avec le pays pour continuer à avancer sur ce projet et avec ce lieu dédié à Enviropol pourra traiter de plus gros bâtiments encore comme des goélettes de 900 à 1000 tonnes. Une dépollution et un démantèlement aujourd'hui préférés à l'océanisation. Cette méthode qui consiste à immerger des épaves au large et il y a de quoi faire au Fénois. L'année dernière, 150 épaves avaient été recensées.
De l'actualité sanitaire maintenant avec ce constat de la Chambre territoriale des comptes.
La CTC qui a rendu public République ce matin une synthèse reprenant trois rapports sortis en 2024 et 2025 sur la politique de lutte contre le cancer, la prévention de l'obésité chez les jeunes et la gestion de l'hôpital. Et elle n'est pas vraiment joyeuse. Progression continue des pathologies chroniques comme l'obésité et le cancer et donc saturation des services hospitaliers, retard de diagnostic, pression sur les comptes sociaux. Il y a 4 ans, les pathologies chroniques représentaient 72% des dépenses d'assurance maladie. Face à ce constat, l'efficacité des politiques de santé publique est limitée à cause de la fragmentation des dispositifs, d'une coordination insuffisante entre les acteurs et de l'absence d'une culture systématique de l'évaluation. La CTC note aussi qu'il faut créer des unités spécialisées à l'hôpital comme le poste urgence, la gériatrie et clarifier aussi les coopérations avec l'Institut du cancer. La Chambre encourage le pays à un pilotage plus resserré de la politique de la santé, une mobilisation renforcée de l'ensemble des acteurs, mieux maîtriser les coûts du système de santé et mieux structurer les engagements pour améliorer leur pérennité.
Et on termine ce journal avec du sport et cette photo de Kaoli Vast et son tout nouveau maillot pour le Championship Tour de la WSL.
Il est tout blanc, drapeau polynésien d'un côté, français de l'autre et avec ce chiffre en gros 24. Aucun rapport avec son âge, c'est une référence à l'année olympique Paris 2024 où il a obtenu la médaille d'or sur la vague de Teahupo. Il a expliqué que c'était l'un des meilleurs moments de sa vie. Il voulait donc garder ce souvenir en motivation. Objectif pour cette première saison dans le CT, être sacré Rookie of the Year. Et la waiting period a déjà commencé sur le spot de Bells Beach en Australie, la première étape du CT. Mais il faudra attendre de meilleures conditions pour le début de la compétition. Next call le 3 avril. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ces informations. Maintenant, voici la météo sur Radio.